Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, sommaire de cette édition du jeudi 24 novembre 2022. Les rebelles du M23 en RDC affirment ne pas être concernés par le cessez-le-feu signé par Kinshasa et Kigali. Le Ghana s'impose une cure d'amaigrissement dans le cadre de la restructuration de sa dette nationale convenue avec le Fonds monétaire international. Au Tchad, un conflit entre éleveurs et agriculteurs s'est soldé par une dizaine de morts.
Si vous arrivez à mener une opération aussi importante que celle-là, il faut collaborer avec la population autochtone pour que cette population dénonce au fur et à mesure ses agissements des uns des autres.
Reportage d'André Kodmajinga à suivre dans la partie magazine. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme souhaite se rendre en Iran, mais bute sur le silence de Téhéran. Ici aux États-Unis, les Américains célèbrent ce jeudi la fête de Thanksgiving. Coupe du monde de football, le Cameroun a perdu devant la Suisse 1-0. Le Ghana et le Portugal se neutralisent après 73 minutes de jeu, un but partout. Bonsoir, bienvenue. On commence par le journal. Et c'est le mondial qui capture toutes les attentions, spéciale Coupe du Monde. Eric Manirakiza, bonsoir.
Bonsoir Jean-Roger.
La Suisse a porté un coup sévère au rêve de qualification du Cameroun, battu 1-0 ce jeudi à Doha dans un groupe G du mondial 2022, très relevé avec le Brésil et la Serbie. Que peut-on retenir, Eric Manirakiza?
Les attaquants camerounais n'ont pas eu l'efficacité de leur glorieux aîné Roger Mila, honoré avant le coup d'envoi comme plus vieux buteur de l'histoire de la Coupe du Monde par le président de la FIFA, Gianni Infantino. Mila avait ébloui le Mondial 90 avec 4 buts et marqué à 42 ans un dernier but en 1994. Et c'est la 8e défaite d'affilée en Coupe du Monde pour les Lions Indomptables qui se sont inclinés sur un but de l'attaquant né au Cameroun, Brel Embolo, et resté coincé dans les starting blocks. Mbolo Balouane et Al Yaoundé a le plus modestement possible fêté son but, levant les bras au ciel pour célébrer, les pommes en avant pour demander pardon. Mais les Camerounais peuvent s'en vouloir à eux-mêmes, bien plus qu'à Mbolo d'avoir manqué leurs occasions en première période. Notre correspondant Emmanuel Juntap a recueilli quelques réactions des Camerounais après ce match. Suivez.
C'est une grande déception pour le pays parce que on a tout mis en place pour que nos joueurs puissent nous donner une bonne prestation à la Coupe du Monde. Mais malheureusement, on a perdu le premier match. Les joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais le but ne venait pas.
Est-ce que le Cameroun peut encore passer pour le second tour selon vous?
Moi j'ai du l'espoir.
Vous avez encore la Serbie et le Brésil, hein?
La Serbie et le Brésil. On a eu à battre le Brésil, hein? Au cours des confédérations, vous vous rappelez? Donc tout est possible. Impossible à Cameroun, comme on dit souvent.
Pour un premier temps, le Cameroun a assuré. C'est juste les erreurs techniques à la deuxième minute qui a permis à sorte que la Suisse puisse marquer et nous mener. Parce que vers la fin du match, on ne respectait plus les postes qu'on devait avoir.
Comment vous avez trouvé par exemple la ligne d'attaque des Lions Indomptables?
Non, c'était une très belle ligne d'attaque. Il y avait là de l'énergie positive qui se dégageait. Et on espérait vraiment voir beaucoup de choses, plus que ça. Mais forcément, comme on dit souvent, le ballon est rond. Ça a mal tenu de notre côté.
Alors, qu'est-ce qu'il faut changer selon vous?
Bon, moi, je crois qu'il faut revoir au niveau des postes, surtout au niveau de notre frère Jean-Banguissa, qui devait assumer normalement son poste et éviter de monter n'importe comment.
En première des choses, nous jouons la balle très très lent. Nos milieux de terrain n'osent pas aller la balle vers l'avant. Nos joueurs sont dispersés au niveau de l'attaque. C'est la gauche, l'autre à droite, nous ne sont pas regroupés.
Et pourtant, le Cameroun a eu les meilleures occasions en première période.
Nous avons eu les meilleures occasions, on tuait le match, on gagnait, on tuait le match. On a eu deux bonnes occasions, on pouvait marquer deux buts, le score finissait 2-1, le Cameroun gagnait.
Le Cameroun bénéficie toujours d'une énorme cote de sympathie depuis le pas de danse de Mila au poteau de Cornet, mais il n'a gagné qu'un seul match de Coupe du Monde depuis cette époque.
Uruguay et Corée du Sud restent muets pour leur entrée. Après les autres rencontres du jour, Portugal-Ghana en cours dans le groupe H et Brésil-Serbie dans le groupe G, toutes les équipes auront disputé leur premier match.
Tout à fait, Jean-Roger. Derniers arrivés sur le sol qatari, les Brésiliens commencent leur tournoi là où beaucoup les imaginent le finir, au stade de Lusail, où sera jouée la finale le 18 décembre. La défaite choque des Argentins de Lionel Messi contre l'Arabie Saoudite mardi dans ce même stade et le revers ce mercredi de l'Allemagne contre le Japon. Deuxième grosse surprise de ce début de compétition sonne comme un nouveau rappel à la vigilance pour Neymar et ses équipiers. Le Portugais Cristiano Ronaldo, déjà meilleur buteur de l'histoire du football de sélection, vient de devenir contre le Ghana le premier à marquer lors de cinq Coupes du Monde différentes. Le Portugal mène actuellement 2-1.
Donc, de nombreux rebondissements dans cette rencontre. La surprise de la victoire saoudienne face à l'Argentine de Messi a créé l'émoi chez les fans arabes, brandissant les drapeaux de leur pays sur la corniche de Doha. Tunisiens, Égyptiens, Marocains, Libanais ou encore Jordaniens ont rejoint les fans saoudiens pour célébrer en fanfare ce succès spectaculaire.
Le pays fait rarement l'unanimité dans le monde arabe, mais ce triomphe inespéré a embrasé des supporters de toute la région pour la première grosse sensation de la Coupe du Monde de football au Qatar. On est unis dans la joie, confie Khaled Abdallah, un supporter saoudien de 23 ans, portant le maillot blanc et vert de son pays. Pourtant, dans la région, les réseaux sociaux voient fleurir des posts célébrant l'exploit des Faucons Verts. La tour la plus haute du monde, située à Dubaï, s'est illuminée aux couleurs du pays voisin. Même les Qataris ont redoublé de klaxons et agité les drapeaux des deux pays, oubliant le boycott de plus de 3 ans mené par l'Arabie Saoudite contre Doha, l'une des pires crises diplomatiques connues dans le Golfe.
Page de sport, signé Eric Manirakiza. L'actualité, on retourne sur le continent, alors que l'accord signé hier à Luanda, en Angola, entre Kinshasa et Kigali, prévoit le retrait du M23 dans les localités qu'il occupe. À partir de demain vendredi à 18h locales, les rebelles affirment, eux, ne pas être concernés. Edith Sango.
La réaction du mouvement du 23 mars est donnée par son président Bertrand Bissimois, qui, dans un post sur Twitter, écrit que les rebelles ne sont pas officiellement saisis. Bertrand Bissimois indique plutôt avoir vu, comme tout le monde, un document parlant de son mouvement sur les réseaux sociaux. Il réaffirme que le M23 reste pacifique et engagé pour les dialogues prônés par les chefs d'État de l'EAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Ces dialogues, précise Bertrand Bissimois, demeurent la seule voie susceptible de résoudre les causes profondes des conflits dans l'Est de la RDC. Pourtant, les documents signés par Kinshasa, Kigali et d'autres chefs d'État prévoient les recours à la force des armées de l'EAC qui se déploient dans la zone contre les groupes armés et mouvements rebelles qui refusent de déposer les armes. Hier, les porte-parole du gouvernement congolais a rappelé que Kinshasa n'acceptera plus d'intégrer en masse les rebelles dans son armée au regard des expériences négatives passées. Le bureau Afrique du département d'État a félicité les initiatives africaines pour la paix en RDC. Washington a demandé au M23 de mettre fin à son offensive, à Kigali de cesser son appui et à toutes les parties de rejeter la xénophobie.
Le procureur de la Cour pénale internationale a déclaré jeudi avoir demandé au juge de confirmer les charges retenues contre le fondateur de la brutale rébellion ougandaise de l'armée de résistance du Seigneur, LRA, Joseph Kony, bien qu'il soit toujours en fuite. Cela fait plus de 17 ans que M. Kony cherche à se soustraire à la justice de cette Cour, a déclaré dans un communiqué le procureur de la CPI, Karim Khan, ajoutant que c'était la première fois que son bureau demandait une audience de confirmation des charges en l'absence d'un suspect. Charles Blé Goudé, pilier du régime de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, fera samedi matin un retour sobre dans son pays natal après son acquittement l'an dernier par la justice internationale, a assuré aujourd'hui le président de son comité d'accueil. Charles Blé Goudé est attendu à l'aéroport d'Abidjan par un vol commercial qui doit atterrir samedi. Il doit ensuite se rendre à Yopougon, une commune populaire d'Abidjan, pour une fête, pas un meeting, a insisté M. Bouga Sako, qui ne veut pas faire de cet événement une question politique. Ce retour se fait avec l'aval des autorités ivoiriennes qui ont remis un passeport à M. Blé Goudé en mai dernier. Gel les recrutements à la fonction publique, de l'achat de véhicules de fonction et des voyages non essentiels à l'étranger. Telles sont quelques mesures annoncées par le Ghana dans le cadre de la restructuration de sa dette nationale convenue avec le Fonds monétaire international. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Présentant le budget 2023 à l'Assemblée nationale, le ministre ghanéen des Finances, Ken Ofori Atta, a expliqué que le pays courait de grands risques concernant le remboursement de sa dette, ce qui a rendu nécessaires les négociations avec le FMI. Toutefois, Ken Ofori Atta n'a pas annoncé de coupe dans le financement des principaux programmes nationaux, mais plutôt d'importants investissements dans les infrastructures et le secteur social. Le gouvernement et le FMI ont convenu d'un programme d'objectifs, d'un plan préliminaire d'ajustement fiscal, d'une stratégie de la dette et du financement requis par le programme, a déclaré le ministre ghanéen des Finances dans son discours à l'Assemblée nationale. Ken Ofori Atta a énuméré un certain nombre de mesures qui permettront au gouvernement de réduire les dépenses et augmenter les revenus, y compris une augmentation de 2,5% de la TVA, qui atteindra alors 15%, et un gel des exonérations fiscales en faveur des compagnies étrangères. Le Ghana passera aussi en revue les allègements fiscaux accordés dans les secteurs des mines, du pétrole et du gaz. Autre mesure en projet, l'interdiction des véhicules aux moteurs V8 et V6.
Au Comores, la perpétuité a été requise jeudi contre l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, jugé pour haute trahison dans un procès qu'il dénonce comme inéquitable et auquel il a refusé de se présenter. Principal opposant de l'actuel président Azali Assoumani, M. Sambi, 64 ans, est accusé d'être impliqué dans le scandale de la citoyenneté économique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a affirmé ce jeudi être sans réponse de l'Iran à sa demande de visite. C'est au moment où le Conseil des droits de l'homme doit décider s'il veut lancer une enquête internationale sur les exactions dont est accusé Téhéran. Le point avec Rosine Monizero.
À l'initiative de l'Allemagne et de l'Islande, les 47 États membres de la plus haute instance onusienne en matière de droits humains débattent en urgence de la détérioration de la situation des droits de l'homme en Iran. Le Conseil doit décider s'il nomme une équipe d'enquêteurs de haut niveau pour faire la lumière sur toutes les violations des droits humains liées à la répression des manifestations. L'usage inutile et disproportionné de la force doit cesser, a déclaré le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, affirmant que sa demande de visite en Iran restait lettre morte. De nombreux diplomates occidentaux ont dénoncé la répression des manifestations en Iran qui, depuis plus de deux mois, a fait au moins 416 morts, dont 51 enfants, selon l'ONG Iran Human Rights, basée en Norvège. Plus de 15 000 personnes ont été arrêtées et la justice iranienne a déjà prononcé 6 condamnations à mort en lien avec les manifestations.
Les Américains célèbrent aujourd'hui, comme chaque quatrième jeudi du mois de novembre, la Thanksgiving ou la fête d'action de grâce. Dans sa déclaration à l'occasion de cette fête familiale, le président Joe Biden encourage ses compatriotes à réfléchir aux nombreuses bénédictions de leur nation. Anita Lani.
La fête de Thanksgiving est l'une des journées les plus attendues et les plus appréciées aux États-Unis. Chaque quatrième jeudi de novembre, elle offre l'occasion aux familles, aux amis et aux voisins de passer de moments joyeux ensemble, alors que les foyers se remplissent de rires, de plats familiaux préférés et de la joie des amis et des parents réunis. J'encourage le peuple des États-Unis d'Amérique à s'unir et à remercier les amis, les voisins, les membres de la famille et les étrangers qui se sont soutenus au cours de l'année écoulée dans un reflet de bonne volonté et d'unité, affirme le président américain Joe Biden dans une proclamation de la Thanksgiving publiée hier mercredi. Nous rendons grâce pour tout ce qui est bon dans nos vies et réfléchissons aux nombreuses bénédictions de notre nation, a-t-il poursuivi. Cet esprit de gratitude remonte à la fin des années 1500, quand des explorateurs et colons espagnols ont organisé des services d'action de grâce.
Voilà pour le journal. Ne partez nulle part ailleurs. Restez sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Tchad, suite à l'attaque de Boko Haram mardi au petit matin contre l'armée, qui a fait une dizaine de morts selon le gouvernement, un deuil de 3 jours a été décrété par le président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, sur toute l'étendue du territoire national. En revanche, à Krim-Krim, province du Logone occidental, un conflit entre éleveurs et agriculteurs mal géré s'est soldé par une dizaine de morts dans la nuit du 21 au 22 novembre dernier. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point.
C'est l'attaque la plus meurtrière que le Tchad ait connue après 2 ans d'accalmie relative. Le gouvernement évoque une 20aine de morts et de blessés dans les rangs d'une unité des forces de défense et de sécurité. D'autres sources indépendantes parlent de plus de 35 soldats tués ainsi qu'une 20aine de blessés et plusieurs disparus. Pour le docteur Mamadou Mohamed Souleymane, spécialiste de l'extrémisme violent, la radicalisation et le développement dans le bassin du lac Tchad et du Sahel, cette attaque meurtrière est une réponse à l'opération colère de Bohoma.
Si vous arrivez à une opération aussi importante que celle-là, il faut collaborer avec la population autochtone pour que cette population dénonce au fur et à mesure ses agissements des uns des autres. L'État a carrément laissé le champ vide. Ils sont revenus reconstituer au fur et à mesure. Ils ont donné une forte réponse appropriée. Donc pour moi, il n'y a pas une suivi après-vente.
Un deuil national de 3 jours a été décrété par le président de transition Mahamat Idriss Déby en mémoire des soldats tués par les djihadistes. Entre-temps, la population de 3 villages situé dans le département de Guinée, province du Logone occidental dans le sud du Tchad, compte ses morts. Un conflit entre un bouvier et un jeune agriculteur mal géré a occasionné une dizaine de morts. Témoignage recueilli à la morgue de l'hôpital de Moundou.
Il y a 8 corps qui viennent d'embarquer pour Krim-Krim. Tout le monde est là présent à la morgue.
Ce sont les gendarmes qui ont tiré à balles réelles sur la foule qui se rendait à la brigade de Krim-Krim dans la soirée du 21 novembre pour exiger la libération d'un jeune agriculteur arrêté suite à une altercation entre lui et un bouvier qui a pris fuite abandonnant sa moto. La population trouve anormal que le jeune homme soit mis aux arrêts avec la moto alors que le bouvier est en cavale. Les responsables de l'église catholique de la localité ont prêté main forte au centre de santé pour évacuer les blessés à l'hôpital provincial de Moundou.
Le centre était plein, rempli de blessés. Nous avons pris la voiture de la paroisse, nous avons pris 5. Il y a des blessés encore qui sont restés. On a fait 2e voyage, c'était déjà à 1h du matin. Donc on a ramassé encore 11.
Abbé Élisée Mbaïbodom, curé de la paroisse de Krim-Krim, il déplore cette situation.
Hier, aux environs de 22h, dans ce village-là, il y a des gens qui sont armés, qui sont allés tirer pour faire fuir la population. Et là, ils ont mis le feu dans les cases. Et ils ont brûlé aussi les vivres. En tout cas, c'est une vie humaine qui est perdue, c'est regrettable.
Le préfet du département de Guinée, Moussa Dassidi, qualifie l'acte posé par la population de rébellion et donne raison aux gendarmes qui ont tiré à bout portant sur elle.
C'est plus de 400 personnes qui débarquent du village avec armes blanches, investir la brigade. Ils ont crié assaut sur les gendarmes. Et c'était dans la nuit et les gendarmes ont posté. C'est ce qui a fait qu'il y ait plusieurs morts.
La gestion de la transition phase 1 et 2 de Mahamat Idriss Déby a été marqué par des soubresauts de tout genre, assassinats extrajudiciaires, conflits intercommunautaires, souvent marqués par des morts d'hommes, arrestations et intimidations de toute voix discordante. André Kodumajingar Njamenan pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, Njamena au Tchad sur 93.1 FM.
Le Cameroun affirme que le trafic d'armes en provenance de ses voisins alimente le terrorisme de Boko Haram, les séparatistes anglophones et la criminalité. L'armée dit avoir récupéré près de 5000 armes légères illégales, la plupart venant des pays voisins. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka depuis Yaoundé, le récit est de Lionel Gaïma.
L'armée camerounaise pointe du doigt ses voisins après des réunions mardi dans les villes de Maroua et Garoua sur le trafic d'armes. L'armée affirme que les armes provenant de ses voisins servent à alimenter Boko Haram, les séparatistes et une recrudescence de la criminalité. Le colonel Jean-Jacques Fouda dirige la lutte contre la prolifération des armes illégales. Selon lui, de nombreuses armes saisies dans le nord du Cameroun proviennent de pays en conflit, comme la République centrafricaine, le Tchad, le Nigeria et même le Soudan.
Nous parlons encore de Boko Haram, une urgence pour la paix et la sécurité au Cameroun. Ce sont ces armes qui donnent la mort. Ce n'est pas un autre type d'arme. Elles entrent au Cameroun par toutes nos frontières. Il faut essayer de les traiter.
L'armée camerounaise affirme que les attaques de Boko Haram contre les installations militaires, les marchés et les églises ont considérablement diminué au cours des 3 derniers mois. Mais Yaoundé note un lien étroit entre le trafic d'armes et une recrudescence de la criminalité. La République centrafricaine, le Tchad et le Nigeria se sont engagés à collaborer pour lutter contre les crimes frontaliers comme le trafic d'armes. L'Union africaine et le Cameroun estiment qu'environ 130 000 armes légères illégales circulent au Cameroun, notamment des armes de poing, des fusils et des mitrailleuses. Au cours des 10 derniers mois, l'armée affirme avoir récupéré environ 1 500 armes illégales dans le nord et 3 500 autres dans les régions occidentales, où opèrent les séparatistes anglophones. Julie Mbala dirige le projet de désarmement du programme des Nations Unies pour le développement, ou PNUD, au Cameroun.
On sait que les jeunes sont ceux qui les utilisent pour aller attaquer. Et maintenant, on a pris les femmes parce que c'est bâti sur la base de l'expérience de ces femmes kamikazes, de ces jeunes filles qui ont été utilisées pour proliférer la terreur. Et on s'est dit qu'il faudrait les sensibiliser pour les amener à ne pas s'engager dans l'utilisation de ces armes-là.
Boko Haram recrute souvent des jeunes sans emploi. Selon l'ONU, le conflit qui a débuté en 2009 a fait plus de 350 000 morts et quelque 2 millions de déplacés à travers le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Niger. L'ONU indique par ailleurs que depuis le début du conflit séparatiste au Cameroun en 2017, plus de 3 300 civils ont été tués et 700 000 déplacés.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le sport peut-il aider à promouvoir le développement économique des pays africains? Si le sport représente 2% du PIB mondial, en Afrique, il n'est que de 0,5%, alors que le continent vibre au rythme des compétitions sportives internationales et des plus grands championnats européens de football. Au moment où la Coupe du Monde Qatar 2022 bat son plein, nous posons le débat. Que rapporte le sport au continent en termes de retombées et d'opportunités économiques? Quel est l'impact du sport dans les sociétés? Rendez-vous ce jeudi à 19h universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
L'initiative d'Accra est un regroupement de 7 pays, dont le Burkina Faso, pour lutter contre le terrorisme. À Accra, justement, cette initiative a tenu un sommet. Mardi et mercredi, l'initiative va lancer une force multinationale conjointe les prochaines semaines. Le Burkina Faso, durement touché par le terrorisme, a participé à la conférence d'Accra. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
L'initiative d'Accra est un regroupement de 7 pays pour faire face au terrorisme. Il s'agit bien évidemment du Burkina Faso, du Bénin, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Togo et enfin du Nigeria en tant que pays observateur. Ces pays doivent mener des opérations conjointes, former leurs soldats et vont se partager le renseignement. Le Burkina veut aller vite car les attaques sont quasi quotidiennes. Apollinaire Kielem, premier ministre du Burkina.
Si cette initiative-là ne donnait pas de résultats concrets, le Burkina Faso se réservait le droit de se retirer de cette initiative parce que nous ne sommes pas pour des réunions et des sommets sans fin qui tournent en boucle et sans résultat. Et je pense que nous avons été compris parce que l'initiative d'Accra pour la sécurité dans la sous-région a pris conscience de cela. Et les États se sont engagés à mettre en place très rapidement une force conjointe pour soutenir les pays qui luttent contre l'insécurité et le terrorisme au Sahel.
L'initiative d'Accra a décidé de lancer sa force antiterroriste dans les prochaines semaines. Les pays ont besoin de 550 millions de dollars pour le fonctionnement de l'organe. La CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, la Grande-Bretagne sont déjà d'éventuels partenaires. Mais le Burkina prône un financement autonome de l'initiative. Le premier ministre burkinabé.
En prélevant par exemple rien que et une certaine petite somme sur chaque kilogramme de café vendu, de cacao vendu, de coton vendu, de lingots d'or extrait, nous pouvons réunir les fonds nécessaires pour soutenir cette initiative-là et pour la paix et le développement dans la sous-région. Et je crois que nous avons été entendus. Et donc, cette conférence est terminée et je peux dire satisfait parce que nous avons été entendus.
La force en création de l'initiative sera déployée à Tamale, dans le nord du Ghana. Le renseignement, lui, sera basé à Ouagadougou. Siaka Koulibaly est analyste politique.
A priori, je pense que les pays comme le Burkina Faso sont demandeurs donc de la coopération régionale en matière de sécurité et devraient accueillir avec satisfaction l'annonce de cette nouvelle force qui vient d'être mise en place. Reste à voir la faisabilité d'un contingent qui serait basé à Tamale, dont on ne connaît pas très bien les capacités de projection sur le théâtre d'opération, qui se trouverait à environ 800 ou 1000 km.
L'initiative d'Accra, qui a été lancée en 2017, a comme axe le partenariat et le soutien entre pays membres. Le Nigeria, même s'il ne fait pas partie de l'initiative pour le moment, veut accompagner la force en appui aérien et logistique. Le grand absent au sommet d'Accra a été le Mali. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Ici aux États-Unis, c'est aujourd'hui la Thanksgiving, la fête d'action de grâce. Des millions d'Américains passent cette fête en famille. Ils seront aux aguets demain pour les bonnes affaires du Black Friday. Le vendredi noir, jour du coup d'envoi de la saison des achats de 2022. Chris Casquero de la VOA se penche sur les prévisions de dépenses des consommateurs américains victimes de l'inflation. Le point avec Michel Joseph.
À quelques enclavures de Washington, D.C., la capitale américaine, se trouve la ville historique d'Alexandria, en Virginie. Elle abrite un quartier commercial très apprécié des habitants et des touristes. Une boutique qui vend des articles de maison et des cadeaux a survécu à peine au confinement durant la pandémie de Covid-19.
C'était lamentable et nous étions inquiets de ne pas y arriver.
Cette année, les clients sont de retour et prêts à mettre la main à la poche, mais avec prudence à cause de l'inflation.
J'ai l'impression que je cherche davantage un rabais ou quelque chose d'autre qui puisse m'influencer.
La Fédération nationale des vendeurs au détail prévoit que les ventes des fêtes de fin d'année en novembre et décembre vont augmenter de 6 à 8% par rapport à 2021. Selon les analystes, les clients sont à la recherche de valeurs.
Ils font leurs achats dans des marques différentes de celles qu'ils achèteraient autrement et ils envisagent aussi les magasins à bas prix. En outre, de nombreux consommateurs commencent leurs achats de Noël tôt pour étaler leur budget et s'assurer qu'ils ont suffisamment de temps, car chaque dollar compte.
Pour les principaux magasins américains, les perspectives économiques sont mitigées sur la base des résultats économiques au troisième trimestre. La grande compagnie Walmart a annoncé des bénéfices supérieurs aux prévisions et a relevé ses perspectives de bénéfices. Macy's et d'autres grandes chaînes affirment que les dépenses ont ralenti dans les semaines avant la saison des achats de Noël, ce qui pourrait entraîner des réductions de prix. C'est une bonne nouvelle pour les clients de ce centre commercial de la Virginie.
Je le fais beaucoup plus parce que pendant le Covid-19, nous ne dépensions pas tant d'argent. Nous devions rester à la maison. Alors maintenant, je dépense plus pour profiter de la saison.
Pour Amy Rutherford, propriétaire du magasin Red Barn Mercantile, la première saison d'achat en personne depuis 3 ans donne de l'espoir.
Je suis définitivement optimiste. Et en tant que propriétaire d'une petite entreprise, vous devez l'être, mais je le suis vraiment cette année. Je sais que l'inflation est une chose et qu'elle a un impact sur beaucoup de gens, mais Noël arrive à grands pas. Il va quand même arriver.
Et malgré les inquiétudes liées à l'inflation, les boutiques espèrent que les acheteurs seront d'humeur à offrir des cadeaux pendant les fêtes. Dès vendredi, dans ce qu'on appelle le vendredi noir, Black Friday, les Américains iront à l'assaut des centres commerciaux dans une frénésie d'achat qui va durer toute la nuit.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dioras Micro, à la mise en onde, Georges Léonard Sayo. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet bioafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée. À l'écoute de nos programmes.